Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information, c'est jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline, et nous attendons évidemment la parole de présidentielle.
Évidemment, dans une heure maintenant, la prise de parole d'Emmanuel Macron à la télévision, le président de la République qui répondra à nos confrères de TF1 et France 2 pour la première fois depuis l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et alors que la tension reste vive dans le pays. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, a lâché hier soir le chef de l'État devant ses troupes. La rue lui répond, gare envahie ce matin, manifestation spontanée. On s'intéressera d'ailleurs dans 10 minutes avec Julien Fautra au profil de ces manifestants du soir.
Et dans le même temps, les grèves continuent.
Chez les éboueurs à Nantes, par exemple, où l'on demande désormais aux habitants de certains immeubles de garder leurs poubelles chez eux. Grève dans les raffineries aussi, et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous réussi à faire le plein de carburant ? À suivre aussi dans cette édition, Badois qui abandonne sa bouteille verte pour être plus écolo. Babtou, Yel, Génance, ils ont fait leur entrée dans le dico. Ces mots qui font évoluer la langue française. On va y revenir avec Muriel Gilbert à midi 20 dans RTL Midi, votre vie. En pleine semaine de la francophonie, on va s'interroger sur l'évolution de notre langue. Et puis comme nous sommes mercredi, vous aurez bien sûr votre rendez-vous cinéma avec Stéphane Boutsock.
Et bien évidemment, à partir de 13h, ce sera une émission particulière puisque nous attendrons les déclarations, les mots d'Emmanuel Macron pour les commenter ensemble. On sera notamment avec Olivier Bois et avec Martial You.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Bon, c'est classique aujourd'hui, hein.
Oui, exactement. Gris et pluvieux au nord et sec au sud.
Merci Peggy, les précisions à la fin du journal.
J'ai dit Olivier Bois, mais c'est Olivier Bost, bien sûr.
RTL Midi.
Dans une heure maintenant, Emmanuel Macron s'adressera donc aux Français. Il répondra plutôt aux questions de nos confrères de TF1 et France 2. Sa première prise de parole depuis l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites, c'est dire qu'elle est attendue. Le chef de l'État qui, avant cela, hier soir, a reçu les députés de la majorité à l'Élysée. Marie Mollet, la tonalité, c'était vraiment non, rien de rien, on ne regrette rien.
Exactement, aucun regret, aucun mea culpa. Le chef de l'État s'est au contraire attaché à défendre l'usage du 49.3 devant ses propres députés qui, pour certains, se disent écœurés, en colère de n'avoir pas pu voter le texte. « Si on était allé au vote et qu'on avait perdu, vous ne seriez pas heureux ce soir », a justifié le chef de l'État qui continue de défendre le cheminement parlementaire. Et puis le président de la République a fait référence aux manifestations sauvages qui se multiplient depuis lundi soir. « La foule n'a pas de légitimité face au peuple souverain qui s'exprime à travers ses élus », a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron qui joue donc l'ordre républicain et indique qu'il ne cédera rien à la rue à 24 heures d'une nouvelle journée de manifestation.
Des propos qui font réagir dans l'opposition. Écoutez le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud.
S'ils considèrent en effet que c'est une foule illégitime qui a fait grève, qui sont venus manifester depuis des semaines et des semaines dans les rues, partout en France, c'est tout à fait singulier et inédit, avec une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. S'ils considèrent que tout ça, ça ne compte pas, que tout ça est illégitime, alors que c'est une aspiration à la démocratie continue. Les Français ont envie d'être entendus entre deux élections. C'est Emmanuel Macron qui ne comprend plus les Français. Et c'est ce décrochage-là, cette distance qu'il creuse, qui est inquiétante.
Le socialiste Boris Vallaud avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
Alors on l'entend, le président de la République n'a pas vraiment apaisé les choses hier soir. Est-ce qu'on sait ce qu'il va annoncer tout à l'heure, Marie Mollet ?
Alors pour l'instant, c'est surtout ce qu'il ne va pas annoncer. Hein. Pas de dissolution, pas de remaniement dans l'immédiat et pas de retrait du texte, bien entendu. Le chef de l'État va tenter plutôt de temporiser devant ses troupes. Hier soir, il a évoqué la nécessité de trouver une nouvelle méthode et puis les sujets qu'il veut mettre en avant, la santé, l'écologie, le travail. Ses ministres sont priés de lui trouver des idées en toute urgence et dans deux semaines, trois semaines, il reviendra vers les Français. Donc tout à l'heure, à 13h, il va surtout se donner du temps.
Marie Mollet du service politique d'RTL, merci.
Et face au pouvoir, la colère, elle, ne retombe pas.
Avec sans attendre la grande journée de mobilisation annoncée demain, des actions qui se multiplient déjà. Il y a bien sûr ces manifestations spontanées le soir dans plusieurs villes du pays avec plus d'une centaine d'interpellations hier. On y reviendra dans quelques minutes, mais aussi ces blocages. Et ce matin, des gares envahies. C'est le cas à Toulouse, Patrick Hisson.
Oui, voilà 30 minutes maintenant que le trafic est interrompu après l'envahissement de la gare Matabiau et la présence sur les voies de plusieurs centaines de manifestants, essentiellement de l'intersyndicale des cheminots, mais d'autres professions sont également présentes. Des manifestants plus motivés que jamais, à l'image de Yann. Écoutez Yann du syndicat Sud Cheminots.
On est déterminé, je vous dis, on est en train de finir notre troisième semaine de grève reconductible, mais s'ils comptent sur le fait qu'on ait les frigos vides pour entrer à la maison, ils se trompent largement, quoi.
Et ce syndicaliste l'assure, cette mobilisation commence à inquiéter les pouvoirs publics, et notamment dans la perspective de la journée d'action de demain.
Les cabinets de la préfecture du Tarn, voilà, à titre d'exemple, ont appelé les responsables syndicaux pour leur demander que demain, ils arrivent à distinguer les bons des mauvais manifestants. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est que tous les gens aujourd'hui qui descendent dans la rue, quel que soit leur mode d'expression, sont légitimes face à un gouvernement qui a décidé de déplacer le curseur et d'aller à l'affrontement. Hein.
Voilà, durcissement, et donc pour l'instant et depuis une demi-heure maintenant, le trafic de la gare Matabiau est totalement paralysé avec la présence de manifestants sur les voies.
Patrick, ils sont en direct de Toulouse pour RTL, Toulouse qui n'est pas la seule gare envahie, c'est le cas aussi à Nice. Et puis des affrontements avec les forces de l'ordre ont également lieu à Rennes où les pêcheurs manifestaient aujourd'hui.
RTL Midi.
Tout à fait autre chose à présent. Du changement à venir au rayon eau de vos supermarchés, Badois arrête ses bouteilles rouges et vertes.
Le groupe Danone l'annonce aujourd'hui, les 250 millions de bouteilles vendues chaque année vont devenir transparentes. Et derrière la fin d'un symbole pour la marque Agathe Landais, il y a paradoxalement la volonté d'apparaître plus vert, plus écolo, en facilitant le recyclage.
Oui, car ce changement va impacter quand même 90% des bouteilles Badois vendues en France. Donc c'est vraiment un investissement considérable. Ces bouteilles seront, vous l'avez dit, désormais transparentes parce que le plastique coloré est plus difficile à recycler. Clara Mautier est responsable de l'économie circulaire chez Danone.
À l'heure actuelle, on ne peut pas retransformer une Badois rouge et verte en une nouvelle bouteille. On a finalement le colorant qui est dans cette bouteille qui ne permet pas d'avoir un usage alimentaire derrière. Donc cet investissement est assez conséquent sur les lignes de production. À partir d'aujourd'hui, toutes les productions qui vont être livrées en magasin seront donc de couleur transparente.
Cela permettra au groupe d'économiser 900 tonnes de plastique d'ici 2024. Les nouvelles bouteilles seront progressivement en rayon dès aujourd'hui. Et pour que le consommateur s'y retrouve, les couleurs vertes et rouges seront identifiables sur l'étiquette et sur le bouchon.
Merci Agathe Landais. L'Aude, c'est la journée mondiale en ce 22 mars et à cette occasion les Nations Unies alertent sur un risque imminent de crise mondiale alors que les pénuries d'eau tendent à se généraliser selon l'ONU. Et on rappelle que quelque 2 milliards de personnes sont toujours privées d'un accès à l'eau potable aujourd'hui. On y revient dans le journal de midi et demi.
Et puis cette chanson qui était aussi un générique à présent qui vous rappellera peut-être des souvenirs.
Le générique de Premier baiser, série télévisée à succès dans les années 80-90, générique interprété par la chanteuse Emmanuelle, dont on a appris la disparition ce matin. Emmanuelle Motaz, de son vrai nom, est décédée le 16 mars dernier dans un hôpital parisien, d'après le producteur Jean-Luc Azoulay. Elle avait 59 ans. La météo, Peggy Broche, on vous retrouve pour un grand classique, humide au nord, sec au sud.
Exactement, vous avez bien résumé Céline, avec cette perturbation qui glisse vers l'est, on va la retrouver sur une bonne partie nord du pays, avec des pluies plus marquées entre la Bretagne, les pays de la Loire, l'Île-de-France, les Ardennes, tout ça accompagné d'un peu de vent, jusqu'à 50 km/h. Les pluies sont plus faibles cet après-midi entre la Gironde, le Limousin, en allant jusqu'à la Lorraine, et puis ailleurs, c'est un ciel sec mais voilé. Donc plus ou moins voilé. Alors plus on va vers la Méditerranée et les Alpes, et plus le voile est léger, plus c'est ensoleillé. Sauf en Corse, où là, les nuages seront plus présents cet après-midi, avec une petite averse sur le relief possible. Tout ça sous des températures qui restent douces pour la saison. 13 degrés cet après-midi à Brest, 14 à Paris et à Caen, 16 du côté de Bourges, 17 à Limoges, 18 à Montpellier, 19 à Marseille, 20 à Nîmes, 21 à Agen et jusqu'à 22 degrés à Tarbes.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, l'info plus près de vous et un mot d'ordre à Nantes, gardez vos poubelles chez vous.
Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
Gardez vos poubelles chez vous, oui, puisque depuis 15 jours, les éboueurs sont en grève dans la ville. Alors pour limiter l'accumulation des sacs poubelles, le bailleur Nantes Habitat demande aux habitants de garder au maximum leurs déchets chez eux. Les consignes ont même été affichées dans les halls des immeubles.
Oui, effectivement, 9000 tonnes de déchets au total n'ont pas été ramassées depuis deux semaines ici à Nantes. Au Clotereau, par exemple, un quartier du sud de la ville, les poubelles s'accumulent sur le trottoir au pied de l'immeuble d'Ismaël et les rats s'en donnent à cœur joie.
Mais là déjà, il y en a là. Vous descendez à côté de boulanger là-bas, vous allez voir les dégâts qu'il y a là-bas. Parce que les rats, c'est normal, ils cherchent quelque chose à manger. Ils déchirent les poubelles, ils mangent tout ce qu'il y a là-dedans.
Et hors de question pour Ismaël de garder ses poubelles chez lui dans son appartement.
Non, ne garde pas les poubelles chez nous parce que les poubelles, ça tire des asticots. Les poubelles, dans deux jours, ça fait plein de mouches. C'est pas propre, donc non, on ne peut pas les garder.
Et à quelques rues de là, Piotr dépose son sac poubelle sur le tas devant son immeuble. Il m'explique qu'il n'a pas le choix.
La poubelle, elle ne doit pas rester dans l'appartement. Chez moi, dans le couloir, c'est pas possible, du tout. J'aime pas l'odeur, j'accepte pas. On peut laisser dans le balcon nos poubelles. Mais comme nous n'avons pas de balcon, on ne laisse pas chez nous.
La mairie n'a pas l'intention de faire appel à des prestataires privés pour ramasser tout ça ?
Non, c'est pas d'actualité. Il y a juste des collectes ponctuelles pour des enjeux de sécurité dans le respect du droit de grève, tient à préciser la ville de Nantes. Des camions poubelles ont par exemple collecté les bacs la semaine dernière dans des EHPAD. Après le marché aussi, place de la Petite Hollande. Et puis dans le centre-ville, après les manifestations du week-end dernier. Alors, seule alternative proposée par Nantes Habitat, le bailleur social, inviter les usagers à rentrer leurs bacs ou bien garder leurs sacs poubelles à l'intérieur. C'est inimaginable pour cette jeune maman.
Moi, les poubelles sortent de question chez moi, parce que mon fils, les odeurs, et puis c'est pas du tout gênant avec les bactéries.
Ouais, avec les couches, c'est pas évident.
Ah bah non. Et puis lui, comme il mange comme nous.
Parce que là, vous habitez là, vous avez un tas d'ordures énormes devant vos portes.
Ah bah oui, je vois bien. Après,
vous comprenez le mouvement ?
Ah oui, je comprends totalement. La réforme, je suis pas d'accord, quoi.
Mais vous garderez pas vos poubelles à la maison ?
Non.
Et des habitants qui comprennent globalement le mouvement des éboueurs et la situation ne va pas s'améliorer de suite puisque la grève des éboueurs à Nantes est reconduite donc au minimum jusqu'à demain jeudi.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau, donc à Nantes pour RTL.
Et dans un instant, le profil de ceux qui manifestent le soir avec Julien Fautra.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Nous, à partir d'un moment, il y en a marre. Je veux dire, ils nous écoutent jamais. Nous, on n'a jamais voté Macron. Nous, on reste, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Nous, on reste. Macron, il pense qu'on va partir, qu'on va s'épuiser. On ne sera jamais épuisé.
Vous venez d'entendre le son d'une de ces manifestantes, ces manifestants qui se rassemblent le soir dans les villes du pays, alors qu'Emmanuel Macron prendra la parole dans moins d'une heure maintenant. On a voulu s'arrêter sur ces rassemblements spontanés qui s'organisent chaque soir désormais dans le pays contre la réforme des retraites et peut-être plus largement encore contre le pouvoir en place. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Vous avez couvert pour RTL plusieurs de ces rassemblements spontanés. D'abord, on a voulu savoir qui vous aviez croisé dans ces cortèges. Qui sont-ils, ces manifestants ? Plutôt des jeunes, des retraités ?
Plutôt des jeunes. En majorité, ils sont beaucoup être étudiants et à m'expliquer. Moi, je peux, j'ai la force, j'ai l'énergie, ma mère est infirmière, mon père est sur les chantiers. Eux n'ont pas la possibilité d'assumer des rassemblements tous les jours et de faire leurs heures de travail en même temps. Donc oui, surtout des jeunes, 18-30 ans, je dirais. Certains travaillent déjà, Ali, boulot et manifestation. Et c'est par des messageries cryptées qui se tiennent au courant, très tard dans l'après-midi, des lieux de rassemblement. Et ça, c'est une forme de souplesse qu'ont ces jeunes manifestants.
Ce sont des rassemblements mixtes, il y a autant d'hommes que de femmes par exemple ?
Les deux, vraiment, ce que j'ai vu, mon impression, c'est 50-50. Et c'est confirmé par les gardes à vue, d'ailleurs les noms sont autant des noms de femmes que des noms d'hommes. C'est confirmé par les comparutions immédiates, ceux pour qui il y a des poursuites judiciaires, autant de femmes que d'hommes pareil.
J'entends dire que ce sont des militants professionnels, des jeunes activistes, des étudiants extrêmement politisés, est-ce une réalité ?
La plupart sont de gauche. Je vous donne un premier exemple avec ce Nord.
Certes qu'il a été élu, on connaissait son programme.
Mais il y a un candidat qui aurait fait mieux, selon vous ?
Mais oui, Jean-Luc Mélenchon. Il avait proposé une autre alternative et des gens avant lui, moi j'ai voté Benoît Hamon il y a 6 ans, il avait fait des propositions.
Certains assument par ailleurs être d'extrême gauche. Beaucoup ne répondent pas quand je leur demande s'ils sont de gauche ou s'ils sont de droite, parce qu'il y a cette volonté dans le mouvement, cette volonté très répandue de ne pas réduire ce mouvement à ça. Les manifestants sont certains que la majorité des Français, majorité qu'ils soient de droite ou de gauche, sont défavorables au projet du gouvernement. Je vous donne un autre exemple. C'est une femme, elle est aide-soignante, un drapeau syndical dans les mains, Sud, c'est pas un syndicat connu pour être de droite, et pourtant écoutez sa réponse.
J'ai pas envie de travailler juste à 64 ans et 8 mois pour avoir une toute petite retraite à 832 €. Si je pouvais passer un message à M. Macron, il casse d'ici.
Mais remplacé par qui?
Peut-être. J'opterai pour Mme Le Pen.
Marine Le Pen, il y a aussi ce type de profil dans les rassemblements aujourd'hui contre la réforme des retraites.
Julien, est-ce que les personnes que vous avez croisées comme ça le soir sont aussi celles qui défilent lors des grandes journées de mobilisation lorsque les cortèges sont les plus fournis?
Alors il y a une bonne partie des manifestants qui se distinguent des syndicats. Ça, c'est pas notre truc. Le camion CGT a reçu quelques sifflets quand il a quitté la manifestation hier soir place de la République. Et puis, en même temps, c'est le rassemblement syndical à l'origine organisé donc par les syndicats hier soir à Paris qui a été le plus suivi de tous ces rassemblements nocturnes que j'ai suivi depuis quelques jours. Ce qui est nouveau, la tendance, ce qu'on a vu lors des Gilets jaunes d'ailleurs, et ce qui perdure aujourd'hui, c'est que les syndicats ne contrôlent pas tout, et loin de là, et même les syndicats de jeunes, les syndicats lycéens, que des formes de mobilisation se créent, sont massives, sont souvent plus radicales, en dehors des syndicats. Et ça, c'est une vraie tendance qui se confirme encore une fois.
Non, mais dans la question, évidemment, de Céline, il y a est-ce que ces jeunes tentent de récupérer un mouvement pour faire passer autre chose? Parce qu'au fond, la retraite, c'est pas vraiment leur truc, mais ils rêvent du grand soir et du chaos.
Il y a probablement ce type de profil, de gens qui rêvent du grand soir, de gens qui rêvent du chaos. On parle souvent des black blocs qui s'intègrent dans différents mouvements à chaque fois pour porter d'autres choses. Mais moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui évoquaient la retraite de leurs parents, les difficultés de travailler plus longtemps.
Ils attendent quoi aujourd'hui du président de la République qui s'exprimera, on le rappelle, à 13h?
On tient sur votre question toute la complexité de la situation. On n'attend rien, on ne regardera même pas, mais il y a cette conviction dans les rassemblements que rien ne se fera sans lui, sans le président de la République. La question dans les rassemblements, finalement, quelle doit être la façon de se mobiliser, qui fera pencher le président de la République? Est-ce que c'est la violence? Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas vraiment. Est-ce que ce sont des blocages ou est-ce qu'il y a de nouvelles formes de contestation à inventer?
Eh bien, merci beaucoup, Julien Fautra, vous qui suivez régulièrement pour RTL toutes ces mobilisations, souvent spontanées le soir, depuis quelques jours en tout cas, dans plusieurs villes du pays. Merci, Julien.
Je rappelle que le président de la République parlera à partir de 13h, peut-être 13h10 d'ailleurs, que nous suivrons bien sûr ce qu'il dit et que nous décrypterons avec notamment Martial You et Olivier Bost ce qu'il aura dit. Dans un instant, c'est votre vie, la langue française qui évolue avec Muriel Gilbert. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui.
Parfois j'y pense, on fait tous des trucs étranges. C'est la gênance, c'est la gênance.
La gênance qui est désormais dans le dictionnaire, tout comme le flow, le wokisme, les babtous.
Tous les babtous.
Babtous.
Ouais. Babtou, je sais pas ce que c'est.
Ah bah c'est les blancs en fait, les Français. Ça fait c'est comme IEL, ça fait partie des mots qui ont fait leur entrée dans le dico cette année, Pascal. Cette langue française qui évolue, on a voulu s'y arrêter à l'occasion de la semaine française de la semaine de la francophonie, et de la langue française. Bonjour Muriel Gilbert.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes correctrice au Monde et les auditeurs d'RTL vous connaissent bien grâce à votre chronique Un bonbon sur la langue. C'est le week-end avec Stéphane Carpentier. Vous êtes aussi l'auteur des 99 fautes que tout le monde fait chez Vuibert. Est-ce que la langue française évolue plus vite ces dernières années?
Plus vite, c'est possible avec Internet, avec les voyages, donc les échanges sont plus nombreux entre les humains. Donc il y aurait une logique à ce que la langue évolue plus vite. Maintenant, les langues ont toujours évolué. Autrement, ce sont des langues mortes. Hein. Donc à partir du moment où on a une langue vivante, elle évolue. C'est vrai que comme les hommes échangent davantage, les hommes et les femmes échangent davantage depuis le 20e siècle, la moitié du 20e siècle, la deuxième moitié, la langue évolue sans doute encore plus vite.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez par exemple de ce mot, la gênance qui entre? Est-ce que pour vous c'est justifié?
Mais pourquoi pas? En fait, il y a différents niveaux de langue. Donc la gênance, c'est pas forcément à utiliser dans votre bouche, à la radio, quand vous donner les informations. J'allais dire les infos, vous voyez, là déjà je suis en train d'utiliser, j'ai hésité à utiliser ce terme. Voilà, donc la gênance, c'est un terme familier.
Oui, non, mais c'est un nouveau mot. Ça, d'abord, voilà, ça s'appelle comment un nouveau mot? C'est un néologisme ou un barbarisme?
Un néologisme, ouais.
C'est un néologisme. Voilà, bon, la langue française donc a évolué. Alors, est-ce que les Français commettent plus de fautes qu'avant?
Alors, il paraît. C'est ce qu'on a vu il y a peu de temps, en tout cas, sur l'évolution de la dictée, là, chez les petits. Hein. Il y a eu des communiqués sur la question, et effectivement, sur les 20 dernières années, on voit le nombre de fautes sur un même texte augmenter. Alors, je pense que c'est tout simplement parce qu'on ne met plus l'orthographe. Si vous voulez, c'est une question de choix de société, un petit peu. C'est-à-dire, dans les années 20 ou 30, il y avait une dictée par jour à l'école. Mais aujourd'hui, c'est fini.
Justement, de la même manière que notre vocabulaire s'enrichit de tous ces nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire chaque année, est-ce qu'il faut aussi faire évoluer les règles de la langue française, la grammaire, par exemple ?
Vous parlez à une correctrice, alors je vais parler comme correctrice, hein, bien sûr. Donc pour moi, non. Voilà. Pour moi, le français, c'est une langue magnifique aussi, en partie, parce que c'est une langue compliquée, pas toujours logique. N'essayons pas de faire croire que c'est toujours logique. Le fait qu'il y ait tellement d'exceptions à nos règles, bah, c'est la preuve qu'elles ne sont pas si logiques que ça.
La grammaire est logique quand même. Le vocabulaire ne l'est pas forcément, mais la grammaire, elle est assez logique, la grammaire française.
Oui, assez, assez, mais pas toujours quand même. Voilà. En tout cas, pour moi, l'idée, c'est pas de changer cette langue pour que l'orthographe soit accessible absolument à tout et à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a toujours eu des fautes. La preuve, c'est que mes ancêtres correcteurs, il y a toujours eu des correcteurs. Hein. Il y en avait déjà qui se penchaient sur les hiéroglyphes à l'époque égyptienne. Donc, ne pas faire de fautes du tout, ça a toujours été impossible. Maintenant, le jeu pour tout un chacun, c'est d'en faire le moins possible. C'est tout. Donc, oui, la langue est compliquée. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus d'orthographe à l'école. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui quand même qu'on est, on est tombé à un niveau tellement bas que dans les grandes écoles, par exemple, on a des gens très bien formés, notamment en maths. On se retrouve quand même avec des gens qui sortent diplômés à de très bons niveaux, mais avec un niveau d'orthographe tellement, tellement mauvais qu'on leur propose des formations avec des coachs, pour parler bien français, dans les grandes entreprises, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faudrait faire un peu mieux.
Ben merci. Alors, ce qui a disparu également, et peut-être on n'en parle pas assez, c'est la ponctuation. On a l'impression que pour la jeune génération, il n'y a que deux signes de ponctuation que cette génération connaisse, la virgule et le point. Mais le reste,
le point d'exclamation.
Point de suspension aussi.
Ouais,
point d'exclamation. Mais on fait déjà quatre, Pascal.
Ouais,
c'est vrai que le point-virgule semble un peu désuet par moment.
Oui.
Non, et dans mais les deux points, par exemple, ça existe. Ouais. Les guillemets, ça existe. Le point d'exclamation seul, par trois points d'exclamation, oui, ça ne veut rien dire.
En général, ils viennent par trois ou quatre.
Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire, le point d'exclamation. Enfin bref. Voilà. On peut vous retrouver samedi matin et samedi et dimanche matin. C'est toujours passionnant avec...
Ce sera avec plaisir. Je me régale, moi, à faire ces chroniques et à les partager avec les auditeurs d'RTL.
Avec les auditeurs, effectivement. Eh bien, merci beaucoup.
Et pour ceux comme vous, Pascal, que le sujet passionne, on recommande l'écoute du dernier podcast Focus Culture sur ce sujet, justement, comment se porte la langue française. Merci encore, Muriel Gilbert.
Les 99 fautes que tout le monde fait. Il y en a une, par exemple, que vous vouliez nous donner avant de laisser passer une pause. Une faute que tout le monde fait.
Tenez... Oui, alors il y en a une que j'entends beaucoup ces temps-ci. Les 1 an du conflit en Ukraine. C'est insupportable. Les 1, c'est pas possible, ça. Donc voilà, c'est le premier anniversaire du conflit.
Merci. Merci Muriel Gilbert. 12h27, l'info revient dans une seconde. L'information, voulais-je dire.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12-30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
La grande édition à une demi-heure de la prise de parole d'Emmanuel Macron.
Ce sera à partir de 13h, le président de la République face à nos confrères de France 2 et TF1. Première prise de parole après l'adoption de la réforme des retraites par 49.3 et alors que la colère se fait toujours entendre dans le pays. Affrontement par endroit avec les forces de l'ordre, gare envahie, manifestations spontanées, dispersées notamment par des Bravem. Les forces de l'ordre pointées du doigt aujourd'hui par des députés insoumis. Cette colère donc est la réponse présidentielle qui seront au cœur de cette édition alors que la grève se poursuit, notamment dans les raffineries. C'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous réussi à faire le plein de carburant? Dans cette édition également, Emmanuel Macron qui se prépare à recevoir Charles III, le monarque britannique, et au menu notamment un dîner d'État avec Fast au palais de Versailles. Le nombre de boulangeries, lui, augmente en France. RTL vous le révélait ce matin, et cela malgré la crise de l'énergie. C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui, et vous verrez que nous ne sommes pas tous égaux. Près de 2 milliards d'humains n'ont toujours pas accès à l'eau potable aujourd'hui. Et puis juste après le journal, votre rendez-vous culture LVT midi. Nous sommes mercredi, on ira donc s'aérer un petit peu dans les salles avec Stéphane Boutsocker.
Édition particulière, des auditeurs ont la parole, puisque évidemment on écoutera les phrases clés d'Emmanuel Macron et nous les commenterons ensuite avec les auditeurs au 3210.
La météo et les prévisions complètes à la fin du journal, mais déjà un indice, Peggy Broche.
Une France coupée en deux avec de la pluie au nord et un temps plus sec au sud.
Merci Peggy.
RTL midi.
Écoutez la colère, mais sans reconnaître une légitimité à la foule. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Voilà l'équation posée hier soir par Emmanuel Macron devant les parlementaires de la majorité reçue à l'Élysée. Le chef de l'État s'exprimera, on vient de vous le dire à nouveau dans une demi-heure maintenant, lors d'un entretien accordé à nos confrères de TF1 et de France 2. Et entretien que l'on vous disséquera dans RTL longuement. Thomas Després, on vous retrouve déjà en direct de l'Élysée où les cars des régies télé sont installées.
Oui, depuis hier après-midi, déjà au total près de 80 personnes environ qui préparent cette interview très attendue. Un entretien qui devrait durer une demi-heure selon l'Elysée. Mais bon, on sait qu'avec Emmanuel Macron, ça peut parfois un peu déborder. Interview dans le jardin d'hiver du palais de l'Elysée. C'est là que sont organisées bon nombre de conférences de presse avec des chefs d'État. C'est là par exemple qu'était Volodymyr Zelensky il y a environ deux mois. Un lieu choisi pour sa solennité. Et puis, un mot du format interview au journal de 13h. C'est un choix qui fait beaucoup débat. Moins médiatique qu'une allocution à 20h. Mais l'Élysée assume, c'est à la France qui bosse, celle des grandes villes qu'ils veulent s'adresser.
Ça c'est pour le décorum Thomas, mais sur le fond cette fois, on sait ce que le président va nous dire.
Alors, on sait déjà, surtout Pascal, ce qu'il ne va pas dire. Pas de dissolution, pas de remaniement, pas non plus de référendum, en tout cas dans l'immédiat. Mais dans l'entourage du président, on promet des annonces, une nouvelle méthode. Le président ne va pas fuir les choses, m'expliquait hier un conseiller. Il parlera du 49-3, des réformes à venir. Et puis, il devrait aussi donner un rendez-vous. Parce qu'il l'a dit à ses interlocuteurs hier, il reviendra devant les Français, peut-être d'ici trois semaines, un mois. Cette fois-ci, ça pourrait être à 20h.
Thomas Després, en direct de l'Élysée, donc pour RTL, les opposants à la réforme des retraites reste déterminée à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation. Déjà ce matin, les gares ont été envahies à Nice et Toulouse. Des affrontements sont en cours à Rennes en marge d'une manifestation de pêcheurs. La police a délogé au canon à eau des manifestants qui avaient dressé une barricade dans le centre-ville. Le ton semble se durcir, donc les opposants restent mobilisés. Écoutez Christophe Claret de la CGT, doc de Fos-sur-Mer.
Changement de braquet, on l'espère plus. Il a plus qu'à retirer sa réforme. Monsieur Macron a mis le pays à feu et à sang.
Qu'est-ce que vous attendez ce midi de sa prise de parole à la télévision?
Rien.
Vous allez l'écouter?
Non. Non, il faut qu'il nous écoute à nous. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer tout, n'importe quoi. Puisque l'intersyndicale s'était organisé, c'était tout bien, tout le monde l'a dit. Maintenant, il peut y avoir tout style de mouvement, style gilets jaunes, qui ne seront pas contrôlés. Et la répression va s'abattre encore un peu plus sur les travailleurs. Comme hier au DPF à Fos-sur-Mer, où on a été chargé par les CRS.
Christophe Claret de la CGT Docs de Fos-sur-Mer au micro RTL d'Étienne Baudu.
Et alors que la contestation se poursuit, que les manifestations spontanées se multiplient chaque soir dans plusieurs villes du pays, l'action des policiers fait débat.
Trois députés de la France insoumise demandent ainsi aujourd'hui le démantèlement provisoire de la BRAVM, cette brigade de répression de l'action violente motorisée. En clair, des policiers à moto qui interviennent pour disperser la foule. Et c'est cette façon parfois musclée de mettre fin au rassemblement qui pose problème, d'après le député Hugo Bernalicis.
Ces BRAVM ont été mis en place pour faire peur, pour frapper, même pas pour interpeller, même pas pour disperser, mais vraiment pour brutaliser les manifestants. C'est pas que ça pourrait dégénérer, c'est qu'à chaque fois ça dégénère. Il est arrivé à plusieurs reprises que la BRAVM se retrouve elle-même encerclée. Quand ils sont encerclés, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent encore plus fort, ils sortent les LBD, ça balance des grenades lacrymogènes explosives à bout portant. L'objectif d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas de mater une mobilisation, c'est de permettre et de garantir la liberté de manifester.
Le député France Insoumise Hugo Bernalicis avec Anne Le Hénaff pour RTL. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Cette Bravem, on l'entend, est pointée du doigt par trois députés LFI. Mais qui sont ces agents exactement? Quel est leur rôle?
Alors cette brigade, elle a été créée en mars 2019 à l'occasion de la 19e journée d'action des Gilets jaunes. Je vous remets un peu dans le contexte de l'époque. Chaque week-end, Paris est le théâtre de manifestations et de dégradations. Le nouveau préfet Didier Lallement a une feuille de route précise: interpeller au plus vite chaque casseur pour éviter au maximum les dégradations. D'où l'idée de créer cette brigade, un policier au volant de la moto, un autre lourdement armé à l'arrière. Les Bravem ne sont pas en première ligne pour encadrer un cortège, ça c'est le rôle des CRS et des gendarmes mobiles. En revanche, avec les manifestations spontanées, ils sont employés pour disperser les petits groupes de casseurs. Dernière précision pour terminer, on compare beaucoup les Bravem aux voltigeurs à moto créés après mai 68, mais il y a une différence fondamentale. Contrairement aux voltigeurs de l'époque, les policiers de la Brave ont une stricte interdiction d'intervenir depuis leur moto en marche. Ils sont obligés de mettre un pied à terre avant de passer à l'action.
Mais c'est ça qui est essentiel. Et ce que dit M. Bernalicis n'est pas juste, parce qu'ils n'interviennent pas sur la moto. Ils sont obligés de laisser leur moto à 300 mètres de l'intervention.
Ce qu'il dit dans le son, c'est qu'il critique les méthodes d'intervention une fois au sol.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le fait qu'ils soient motorisés. Ils sont motorisés pour se déplacer d'un endroit à un autre.
Pour aller plus vite au niveau des casseurs.
Exactement. Donc, ils deviennent des policiers classiques ensuite dans leur intervention. Donc, ils jouent sur le parallèle avec les voltigeurs, mais ce qu'il dit n'est pas juste.
Ça, c'est votre interprétation.
Pardonnez-moi, c'est pas mon interprétation, c'est factuel. Ils n'interviennent pas quand ils sont sur la moto.
C'est bien ce que j'ai expliqué, on n'est plus chez les voltigeurs post-68.
Merci beaucoup Guillaume Chiez.
Et c'est dans ce contexte éruptif qu'Emmanuel Macron se prépare à recevoir Charles III.
Première visite du monarque britannique en France. Charles III et la reine consort Camilla arriveront dimanche soir à Paris. Et le lendemain, lundi soir donc, ils dîneront avec le président Emmanuel Macron sous les ors du palais de Versailles. Un dîner d'État, Monique Younes. Tout en faste.
Mais oui, tout en faste, parce qu'avant le dîner d'État, Charles III et la reine consort assisteront en compagnie des 200 invités à un concert à la chapelle royale du château de Versailles. C'est une première pour un dîner d'État, au programme des œuvres de compositeurs britanniques, évidemment, interprétées par le chœur de l'orchestre de l'Opéra Royal, notamment des airs que Handel avait composé pour le couronnement du roi George II en 1727. C'était à Westminster Abbey. Alors après le concert, Charles III traversera, comme sa mère l'avait fait en 1957 avec le président René Coty, les appartements de la reine pour arriver à la Galerie des Glaces où une table de 50 mètres sera dressée. Les invités dîneront dans la plus belle vaisselle de Sèvres, notamment le service dit aux oiseaux, créé à Vincennes en 1758 sous le règne du roi Louis XV par son orfèvre Duplessis Père. C'est un service hors de prix. Les assiettes coûtent aujourd'hui, si vous voulez les acheter, entre 3 000 et 8 000 euros pièce.
Non, merci Monique.
Voilà, c'est de la porcelaine dure, façonnée, décorée à la main, avec des émaux hautes et basses températures et de l'or pur, 24 carats. L'Élysée utilise le service aux oiseaux depuis 1872, généralement pour les dessert pour ne pas risquer de trop rayer les assiettes avec les couteaux et les fourchettes. Et donc lundi soir, les convives se contenteront de manger la cerise sur le gâteau et avec les doigts.
Merci Monique Younes.
Versailles, son palais donc, vers lequel marchaient des femmes en 1789 en réclamant du pain.
Qu'ils mangent de la brioche, aurait alors déclaré Marie-Antoinette,
en fait,
selon la légende.
Elle l'a sans doute jamais dit.
Cette digression historique digérée, Pascal, si l'on vous parle du pain aujourd'hui, c'est parce que malgré la crise de l'énergie, malgré toutes celles qui baissent le rideau, RTL vous le révélait ce matin, le nombre de boulangeries augmente en France, Pierre Herbulot.
Oui, si on fait les comptes sur toute l'année 2022, au 31 décembre, il y avait 11 boulangeries de plus qu'un an auparavant. Sur un total de 39 000, on devrait plutôt parler de stabilité, hein, 2000 ouvertures, 2000 fermetures à peu près. Mais vu les difficultés que connaissent ces commerces depuis des mois, ce bilan dans le vert est une très bonne nouvelle pour Thierry Milon, auteur d'une étude sur le secteur pour le cabinet Alteres.
c'est une bonne surprise parce que ça confirme la capacité, un, de résistance du secteur, son attractivité. Il y a besoin de la boulangerie qui, à la fois, vend un produit, évidemment, mais qui a aussi un rôle social qui est manifestement suffisamment important pour que l'artisan prenne le risque de recréer un magasin, voire un deuxième d'ailleurs.
Une ouverture sur cinq se fait en région parisienne. Le nombre de boulangers y a même augmenté de 20% depuis 2018. La ville donc plutôt que la campagne pour ces nouveaux artisans. 10% d'entre eux sont d'ailleurs des reconvertis en quête de sens qui, en plus du pain, mettent le paquet sur la formule déjeuner avec quelques tables en boutique.
Pierre Arbulot, merci.
Et un ingrédient essentiel pour faire le pain, c'est l'eau.
L'eau dont la gestion est très questionnée actuellement dans le pays, mais pas seulement. Les Nations Unies s'en alarment et assurent que les pénuries d'eau tendent à se généraliser alors que l'accès à l'eau potable, Virginie Garin, est encore très loin d'être un acquis mondial. On le rappelle, en cette journée mondiale de l'eau, près de 2 milliards de personnes en sont toujours privées d'eau potable.
Oui, 2 milliards de personnes qui doivent marcher des kilomètres, c'est souvent le rôle des femmes, pour aller à un puits, ou qui boivent de l'eau d'un lac, d'un fleuve insalubre. Il y a 2700 décès par jour à cause de maladies liées à l'eau. Et ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement du climat, prévient l'ONU. Pourtant, la quantité d'eau qu'il y a sur la planète, elle est toujours la même. Mais c'est le cycle de l'eau qui est bouleversé. L'eau est de plus en plus mal répartie. Elle se fait rare dans les pays déjà secs, ou au contraire, il pleut plus dans la corne de l'Afrique, mais ce sont des pluies violentes qui causent des inondations et qui ne s'infiltrent pas dans les nappes. Le Sahel a perdu en 10 ans 40% de ses ressources en eau alors que sa population explose. Alors un sommet mondial se tient aujourd'hui à New York. Il n'y en avait pas eu depuis 46 ans. L'enjeu, c'est le partage de l'eau. 260 guerres et conflits frontaliers ont été dénombrés depuis 10 ans à cause de l'eau.
Virginie Garin pour RTL. Un mot de football avec les quarts de finale aller aujourd'hui de la Ligue des Champions féminine à 18h45. Les Lyonnaises tenantes du titre reçoivent Chelsea et puis à 21h les joueuses du Paris Saint-Germain affronteront Wolfsburg. La météo, on parlait d'eau à l'instant, Peggy Broche, pour la trouver c'est plutôt au nord cet après-midi.
Oui, et c'est vrai qu'on en a besoin donc on ne va pas s'en plaindre. C'est le nord qui est touché par une perturbation qui glisse hein, là actuellement vers l'est. On va retrouver des pluies notamment entre la Bretagne, c'est le cas actuellement, les pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes pour cet après-midi. Ces pluies seront plus faibles quand même entre les Charentes, le Limousin et la Lorraine. Et puis ailleurs, c'est un temps sec. Alors sous les pluies, on a un petit peu de vent aussi au nord, c'est vrai, jusqu'à 50 km/h. Mais ailleurs, je vous le disais, entre le sud-ouest et l'Alsace, un temps sec mais bien voilé cet après-midi. Un voile plus léger en allant vers la Méditerranée et les Alpes où là, le soleil domine, sauf en Corse où les nuages seront plus nombreux cet après-midi avec une petite averse possible sur le relief. Les températures, elles sont encore douces hein, pour la saison. 13 à Lille, 14 degrés cet après-midi prévu à Orléans et Paris, 16 à Nice, 17 à Bordeaux, 18 à Toulon, 19 à Mulhouse, 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 21 à Montélimar et Lyon et 22 à Toulouse.
Merci Peggy.
Dans un instant, avec quelques minutes d'avance, la culture, parce qu'évidemment on parlera d'Emmanuel Macron entre 13h50 et entre 12h50 et 13h, puisque son intervention est prévue au début du journal de 13h. On sera donc avec Stéphane Boutsog pour parler cinéma. C'est mercredi, à tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui,
comme nous sommes mercredi, et même quand le président parle, on parle cinéma grâce à notre président.
Le président ne fait pas du cinéma.
Oh, merci.
Bien sûr.
Bonjour Stéphane Boutsog.
Bonjour à tous.
On commence par le box-office porté ces derniers jours par le printemps justement du cinéma.
Les chiffres sont tout chauds, ils sont tout bons. 2 350 000 spectateurs entre dimanche et hier au tarif unique de 5 euros. C'est 10% de plus niveau fréquentation que l'an passé. Et alors tout le monde en profite, notamment les films français, les nouveautés comme La Chambre des Merveilles.
Ça marche bien.
À sa carte, ça.
Et vous l'aviez défendu la semaine dernière.
Mais j'assume monsieur. Et ça marche très très bien. Et figurez-vous que Alibi.com en profite pour passer la barre des 3 800 000, donc c'est fait. C'est le plus gros succès de Philippe Lachaud. Et Astérix a largement passé maintenant les 4 millions et demi, donc ça va plutôt bien. Pourvu que ça dure.
On va voir ça avec deux sorties françaises cette semaine qui vous ont particulièrement plu, Stéphane. D'abord sur les chemins noirs avec Jean Dujardin.
Adaptation du livre de Sylvain Tesson. D'ailleurs, Dujardin joue en quelque sorte le rôle de Sylvain Tesson, film de Denis Imbert qui raconte comment Sylvain Tesson, un soir d'ivresse il y a quelques années, tombe d'un balcon, manque de mourir et revient à la vie, si je puis dire, et décide de partir sur les routes de France. Il va faire 1300 km du Mercantour au Cotentin en passant, vous savez, par ces territoires oubliés ou en tous les cas méconnus. Et c'est exactement ce que montre le film. Comment ce type qui veut se reconstruire dans tous les sens du terme va aussi rencontrer des régions qui sont devenues des déserts, manque de commerce, manque de médecins, etc. Les images sont absolument sublimes. Et en sortant du film, on se dit, qui à part Dujardin aujourd'hui peut camper ce genre de personnage? Eh bien, moi, je pense pas grand monde. Et il le fait, ma foi, formidablement.
L'autre film, c'est De grandes espérances de Sylvain Desclou.
Alors, film très intéressant qui raconte comment deux jeunes gens, ils sont en couple, ils sont étudiants, ils préparent l'ENA, vont un jour de vacances en Corse connaître un drame, décider de l'étouffer et de, alors je vais pas vous dire ce que c'est le drame, hein, et de faire comme si c'était pas arrivé, de continuer leur destin. Elle va entrer au cabinet d'une députée qui va devenir ministre, lui va aussi continuer. Elle, c'est Rebecca Marder, lui, c'est Benjamin Laverne, pensionnaire de la Comédie Française. Ça fait vraiment partie de cette nouvelle génération de l'acteur de la Comédie Française qui est exceptionnel, véritablement. Sauf qu'un jour, eh ben, ce qu'ils ont voulu enterrer, étouffer, va finir par les rattraper. C'est passionnant parce que ça parle à la fois de l'engagement politique, et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité, de l'engagement citoyen aussi, et puis du poids parfois du passé qui vient nous revisiter. Je vous propose qu'on écoute Rebecca Marder parce que c'est la jeune actrice hors théâtre dont on parle beaucoup. Elle est dans Le Dernier Ozon qui cartonne. Elle était nommée au César meilleure révélation cette année pour le film de Sandrine Kiberlin. Et je lui ai demandé de nous parler justement de cette notion d'ambition qui n'est pas un gros mot, loin de là.
Un homme ambitieux, c'est positif. Et une femme ambitieuse, tout de suite, c'est connoté harpie, dent qui règle le parquet. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, moi, j'ai été très bouleversée par ce personnage qui, en fait, fera tout pour garder l'espoir. Et d'ailleurs, c'est le titre, Les Grandes Espérances. Je trouve qu'on a besoin de ça en ce moment. On se dit que tout le monde crache sur les jeunes en disant qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils sont dépolitisés, qu'ils n'ont pas d'envie, qu'ils ont plus de, voilà, qu'ils sont désillusionnés et blasés. Mais en fait, je trouve que c'est un personnage d'une jeune femme quand même qui est concernée et qui, au-delà d'être concernée, veut bouger les choses, quoi. Donc ça donne espoir.
Rebecca Marder, donc, à l'affiche avec Benjamin Laverne du film De Grandes Espérances de Sylvain Desclou qui est sorti aujourd'hui.
Un film qui vous a, on va le dire comme ça, un peu moins séduit, Stéphane.
Ah, j'ai même pas du tout aimé. Ah ben, vous dire.
Très bien. Moi, j'essayais d'être un petit peu
sympa. Oui, mais j'ai bien compris.
John Wick 4 avec Keanu Reeves.
Oui, John Wick 4, c'est donc le quatrième épisode d'une saga qui a démarré
pas les trois premiers,
en 2014 au cinéma. 600 millions de dollars de recettes dans le monde quand même, donc je pense qu'il y en aura même un cinquième, si vous voulez. Avec Keanu Reeves, pourquoi ça m'a pas plu? Parce que, si vous voulez, quand la violence est au service d'une histoire ou d'un réalisateur, comme c'est le cas chez Tarantino par exemple, je trouve ça plutôt acceptable si ça sert encore une fois. Là, je pense que j'ai arrêté de compter les morts à 390, mais au bout d'un moment, ça dure en plus une plombe, ça dure 2h45. L'idée, c'est pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est l'histoire, John Wick, d'un tueur à gages, joué par Keanu Reeves, dont la tête est mise à prix depuis maintenant 4 films, et tous les autres tueurs à gages le suivent à travers le monde pour le zigouiller. Donc là, c'est tourné à Paris, c'est un peu la Libye, un Paris un peu de carte postale, un peu stupide. C'est filmé comme un clip vidéo et un jeu vidéo, et franchement, bah, ça ne m'a pas plu du tout.
Bon, merci Stéphane Boutsock.
Mais allez-y quand même, ça a très bien démarré. Hein.
Creed, ça marche bien. Creed, ça marche bien.
Creed, très, très bien.
Creed, j'ai mal dit.
Creed. En anglais, c'était mieux.
Le troisième volet, oui, le plus marche. Gros succès de la saga, oui, même. Oui, ça, Creed, et ça a très bien marché pendant le premier du
parce qu'on en a parlé plusieurs fois, et puis on se bat parfois dans
la saga Rocky.
Voilà, c'est la saga Rocky, mais ça marche bien. C'est que ça va faire 1 million, par exemple.
Ah, ça l'a largement dépassé, ça va faire largement plus d'1,5 million.
Ah oui, donc c'est un gros, gros succès aujourd'hui. C'est dans les 5 premiers films depuis le début de l'année, sans doute.
Absolument.
1,5 million. Mais merci, merci. Stéphane Boutsock. On va pas parler cinéma puisqu'on va parler d'Emmanuel Macron dans une seconde. 12h52, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
C'est dans quelques minutes maintenant qu'Emmanuel Macron prendra la parole pour répondre à nos confrères de TF1 et France 2. Entretien très attendu puisqu'il va s'agir de la première prise de parole présidentielle depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49-3 à l'Assemblée. Le président qui va parler, mais pour dire quoi ? Eh bien, on va en discuter, nous, avec Olivier Boss, chef du service politique d'RTL. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Cotrez, chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, politologue. Donc, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Després, que l'on retrouvera en direct de l'Élysée. Thomas, les quarts régis, vous nous l'avez dit dans le journal, sont déjà installés. Qu'est-ce qu'on sait du décor choisi par le président pour donner cette interview ?
Thomas. La politique sociale, regardez.
Thomas Després en direct de l'Élysée. Thomas.
Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le président. Le président.
Il est derrière vous, faites très attention.
Le président qui n'est pas encore arrivé dans la salle des fêtes à l'heure où on se parle. L'interview, elle a lieu dans le jardin d'hiver. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter un jour l'Élysée lors des journées du patrimoine, c'est une magnifique verrière, bleu, blanc, rouge. Elle a été installée il y a 2 ans par le designer Buren. Personnellement, je trouve ça très, très beau. Et Emmanuel Macron sera assis autour d'une table ronde avec à sa gauche le présentateur de France 2, Julien Bugier, à sa droite Marie-Sophie Lacaro pour TF1.
Il est déjà en place ?
Non, pas encore. À 4 minutes, selon mes infos, Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé. Mais dès qu'il arrive, je vous tiens au courant.
Mais est-ce qu'il va prendre la parole, il va être interrogé dès 13h ou est-ce qu'il va y avoir d'abord les informations du jour qui seront données par nos confrères ?
Non, à 13h00, Emmanuel Macron prendra la parole. Enfin, les journalistes prendront D'accord. la parole sur le plateau et il commencera à répondre. Il n'y a pas de journal avant.
D'accord. Ce n'est pas de type interview du 14 juillet où il y avait toujours un peu avant un petit journal qui était fait par nos confrères.
Il doit dire quoi, Emmanuel Macron, aujourd'hui ? On sait que ses propos d'hier soir ont fuité. La légitimité de la foule a fait réagir. Déjà, il faut faire attention à ces mots aujourd'hui, Olivier Bost.
Alors, je pense qu'il y a une première chose, c'est qu'il faut expliquer ce qui s'est passé ces jours derniers, puisque mine de rien, on n'a pas entendu réellement Emmanuel Macron depuis un moment sur le sujet des retraites et sur toutes les décisions qui ont été prises et tout le processus qui est aujourd'hui critiqué par les manifestations sauvages, notamment qu'on voit sur le processus parlementaire. Donc c'est la première explication pour cette intervention aujourd'hui. Et puis la deuxième, c'est de se donner du temps, ce qui est un classique chez Emmanuel Macron, qui ne veut jamais être dans une réaction rapide, sous la contrainte, dans l'urgence. Il se donne du temps, c'est-à-dire une perspective pour donner des rendez-vous aux Français pour dire une nouvelle fois, ça on peut en reparler si vous voulez, mais une nouvelle fois qu'il va revoir sa méthode.
Bruno Cotrez, j'avais envie d'entendre votre avis, j'allais dire sincère. Le politologue que vous êtes, quand hier soir vous avez entendu le président de la République parler de la légitimité de la foule, vous vous êtes dit c'est une erreur, c'est une provocation, il a raison d'être droit dans ses bottes, comment vous l'avez interprété ?
D'abord comme un vocabulaire, une utilisation de vocabulaire qui n'est pas propice à ramener le calme. La foule, déjà, ça renvoie à une connotation un peu péjorative. C'est l'idée de dire la foule, c'est une sorte de truc un peu vague, on ne sait pas qui sont ces gens, etc.
Il y a le mot de Victor Hugo, hein, souvent la foule trahit le peuple.
Voilà, mais là quand même, il s'agit d'électrices et d'électeurs, il s'agit de gens qui sont préoccupés. Alors bien sûr, dans le lot, il y a évidemment, on le voit tous, il y a aussi des gens qui sont animés par d'autres intentions. Il y a des intentions de brûler des poubelles, etc. Bon, voilà.
Alors pourquoi il fait ça, selon vous ? Parce qu'il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Pourquoi ?
Il voit bien que le cœur du sujet, c'est autour de cette question de la légitimité et que tout tourne autour de cette question de la légitimité qui est comment organiser dans une démocratie aujourd'hui cette confrontation de différentes sources de légitimité. On voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui de questions sur l'élection. Bah, évidemment, c'est le cœur d'une démocratie représentative, bien évidemment. Mais on voit que dans de très nombreux pays, l'élection ne sert plus complètement à pleinement justifier, à pleinement...
Mais c'est une erreur, selon vous, qu'il s'exprime, qu'il ait dit ça ?
J'ai trouvé que c'était plutôt une erreur, effectivement. Ça préfigure sans doute aussi d'un élément clé de l'interview qu'il va nous donner tout à l'heure, qui est de rappeler quand même les règles du jeu en démocratie. Il a gagné les élections à la loyale. De ce point de vue-là, c'est un fondement de la démocratie représentative. Celui qui perd les élections accepte la défaite et il voit un encouragement pour recandidater après. Celui qui gagne, effectivement, a un mandat du peuple. Mais c'est vrai que la question de quel est le contenu de ce mandat est un vrai problème politique. Aujourd'hui, vous savez, dans un moment où il a aussi fait une campagne qui est une campagne assez courte, alors c'est vrai qu'il avait clairement affiché la couleur sur la réforme des retraites hein, pendant sa campagne électorale. Il parlait même de 65 ans pendant la campagne électorale. Mais ben, on voit qu'il y a quand même matière à réfléchir à cette question des différentes sources de la légitimité aujourd'hui, sans remettre en cause nullement la légitimité qui est sortie des urnes, qu'elle est incontestable en démocratie.
Alors ce que je vous propose, c'est Olivier Bost et Bruno Cotrez, c'est d'écouter le président de la République qui vient de commencer à parler à l'instant. Et puis dès que le président de la République dira quelque chose qui vous paraît important, on entendra, on écoutera cette phrase et on pourra la commenter ensemble, sans oublier bien sûr les auditeurs.
Le qu'il a modifié après ses concertations au Parlement, il a donné lieu à 175 heures de débat.
Vous entendez la voix du président de la République. On va l'entendre, bien sûr, une fois qu'il se sera exprimé complètement. Céline, il est 13h.
On va faire un petit rappel de l'actualité. Et cette actualité marquée évidemment par cet entretien présidentiel qui vient de débuter, le président de la République interrogé par nos confrères de TF1 et de France 2. Sa première prise de parole, vous le savez, depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49-3 à l'Assemblée nationale. Et alors que la contestation se poursuit dans la rue avant une grande journée de mobilisation demain dans tout le pays, des actions qui se multiplient. Il y a bien sûr ces manifestations spontanées dans plusieurs villes du pays. C'était encore le cas hier soir avec plus d'une centaine d'interpellations à la clé. Des mobilisations aussi ce matin avec des gares bloquées à Toulouse, à Nice, des affrontements avec les forces de l'ordre en marge d'une manifestation de pêcheurs à Rennes cette fois, et dans le même temps la grève qui se poursuit à la fois chez les éboueurs et dans les raffineries avec toujours quelques difficultés à trouver du carburant dans plusieurs stations-service du pays. L'actualité sociale donc qui écrase d'actualité aujourd'hui, et nous y reviendrons évidemment longuement dans cette émission des auditeurs. On a la parole avec vous, Pascal Praud, avec Olivier Bost, Martial You et Bruno Cotrès, chercheur au CVPOF. Un mot du temps quand même, puisque la météo, elle, ne s'embarrasse pas de l'agenda présidentiel, Peggy Broche.
Ça reste pluvieux au nord hein, cet après-midi. On a encore des pluies là faibles entre les Charentes et la Lorraine, et on a de nouvelles pluies qui arrivent par l'ouest et qui vont glisser vers le nord-est entre l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes avec un peu de vent. Ailleurs, c'est un temps sec, mais qui va s'ennuager. Le ciel sera bien voilé du sud-ouest à l'Alsace. Et puis, plus on ira vers la Méditerranée et les Alpes, et plus le soleil sera présent. Tout ça sous des températures douces, avec 13 degrés cet après-midi au Havre, 14 à Paris, 16 à Nevers, 18 à Bastia, 19 à Besançon, 20 degrés à Montauban, 21 à Grenoble et 22 à Toulouse.
Merci Peggy.
Merci à Peggy Broche, merci à Céline Landreau, merci également à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13, et nous partons donc avec les auditeurs.